Alors donc voilà, bonsoir à tous. Comme disait Luc au début, voilà, nous avons dormi une heure de plus ce matin. Et, je ne sais pas si vous voyez, il fait déjà nuit, hein, ou presque. Heureusement pour moi, enfin, pour moi et je pense pour vous aussi, il y a la perspective de Noël. Pour ceux qui sont un peu accros, les films de Noël ont commencé. Oui, mais heureusement parce que notre morale n'apprécie pas forcément cette période intermédiaire là où c'est... Hein. Alors, voilà, pour remettre des couleurs dans nos vies, j'aimerais vous parler ce soir de sécheresse, de crise économique et de baisse du pouvoir d'achat. Ça vous tente? Bien. Et pour ce faire, ben, nous n'allons pas tomber assis devant notre téléviseur, riche en chaînes aux arômes de catastrophisme. Non, non, nous allons nous plonger dans la lecture de 1 roi 17, du verset 8 à 16. Donc voilà, je le lis. Alors, le Seigneur adressa sa parole à Élie. Il lui dit, « Pars, va dans la ville de Sarepta, près de Sidon. Tu habiteras là-bas. J'ai commandé à une veuve de cette ville de te donner à manger. » Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse du bois. Il l'appelle et lui dit, « S'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. » La femme part en chercher, mais Élie la rappelle et dit, « Et s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » La femme lui dit, « Par ton Dieu, le Seigneur vivant, je te le jure, je n'ai plus de pain. J'ai seulement une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venue ramasser deux bouts de bois, puis je vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et pour moi. Nous mangerons et ensuite nous mourrons. » Quel programme! Élie répond à la femme, « N'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce qui te reste, prépare-moi d'abord une petite galette et tu me la porteras. Ensuite, tu en prépareras une autre pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël, dans le bol, la farine ne manquera pas jusqu'au jour où moi, le Seigneur, je ferai tomber la pluie sur la terre. La femme va faire ce qu'Élie lui a demandé et ils ont mangé pendant longtemps, elle, son fils et Élie. Dans le bol, la farine ne manque pas. Dans le pot, l'huile ne diminue pas, comme le Seigneur l'a dit par la bouche d'Élie. » C'était bien la sécheresse, la crise économique et la baisse du pouvoir d'achat. Vous êtes d'accord? OK. Donc, on va résumer ce qui s'est passé avant. Bon, c'est un épisode de la vie d'Élie, le prophète. Dieu la voit vers Akab avec un message plutôt piquant et désagréable. Il va y avoir la sécheresse dans le pays. Pourquoi vers Akab? Ben parce que tout simplement, Akab est le roi d'Israël et secondé par sa charmante épouse, la reine Jézabel, il fait des choses que Dieu n'approuve pas. Dieu dit alors que, comme conséquence à ses comportements négatifs, eh ben voilà, il ne pleuvra plus sur le pays. Et comme Dieu connaît leur majesté, Akab et Jézabel, il envoie ensuite Élie, qui se sentait quand même menacé en imaginant la contrariété du roi et de la reine, donc il l'envoie près du torrent de Kérit, de l'autre côté du Jourdain, à l'est du Jourdain. Donc. Et il lui explique qu'il devra rester là et qu'il a ordonné au corbeau de le nourrir. Vous voyez, Dieu avait inventé le drive bien avant nos supermarchés. Les corbeaux ravitailleurs apportent du pain et de la viande. Et pour étancher sa soif, Élie boit l'eau du torrent. C'est très bien. Mais voilà, à un moment, à cause de la sécheresse, le torrent ne coule plus. Élie reçoit une nouvelle feuille de route. Alors pour ne pas titiller la colère d'Akab, il va certainement éviter de traverser en diagonale Israël, mais il va plutôt remonter et bifurquer vers la gauche, jusqu'à se trouver au nord-ouest, dans le pays de Sidon. Dieu le dirige vers Sarepta. Alors, j'ai regardé une carte. Bon, je ne suis pas douée, moi, pour faire les PowerPoint. Hein, mais j'ai calculé à la louche que la distance parcourue par Élie, il a dû faire entre 150 et 200 km et sans étape gastronomique, s'il vous plaît. Hein. Ça vous dirait d'éplucher ces 8 versets pour voir ce que le Saint-Esprit nous dit? Dans les versets 9 et 10, On voit le périple d'Élie. Il quitte les bords du torrent, puis il remonte. Il arrive à Sarepta, en Phénicie, et rencontre cette femme à l'entrée de la ville. Élie est un étranger, un immigré. Il s'adresse à cette dame, il l'appelle et lui demande de l'eau, verset 11. Et elle part en chercher. Là, je m'arrête et je me dis, franchement, cette femme, je la trouve incroyable et généreuse. J'espère qu'Élie l'a saluée, lui a demandé des nouvelles de sa santé, qu'il ne l'a pas agressée en disant « Donne-moi de l'eau !» Ce ne serait pas bien, hein, qu'est-ce que tu en penses, Léa ?
Non,
voilà. Mais peu importe la façon dont il l'a abordée, cette dame se lève et va chercher de l'eau. Et cet épisode m'a fait penser à Jésus qui demande de l'eau à la Samaritaine. Il est fatigué par son voyage, elle est près du puits, prête à puiser. Il lui demande un petit verre d'eau, un chouïa. Mais cette femme commence à pinailler, à discuter. « Ah, tu es juif, tu es Samaritaine, tu es un homme, je suis une femme, et tu m'abordes comme ça pour me demander de l'eau, blablabla, blablabla, blablabla. » Et j'ai relu le récit dans Jean 4, et je pense que finalement, ben Jésus n'a pas eu son eau. Par contre, à la fin de l'histoire, la femme a fait preuve d'opportunisme. Tout d'un coup, elle s'est calmée. Ah, enfin, c'est pas le verset, c'est mon interprétation. Hein. Ah, tu as une eau qui désaltère définitivement, comme c'est intéressant. Oh, j'en veux bien pour ne plus avoir à venir puiser tous les jours. Comme c'était à son avantage, elle a oublié tout ce qu'il avait fait de pinailler au début. Mais la veuve de Sarepta, elle, on lui demande de l'eau, elle donne de l'eau, étranger ou pas étranger, sans argumenter sur le fait que c'est un homme qui lui demande et elle une femme, sans dire que lui, il est israélite et qu'elle, elle est syrophénicienne. Et ce qui me frappe chez elle, c'est cette générosité de cœur qu'elle manifeste, malgré sa situation qui est aussi difficile. La sécheresse, elle est partout. Hein, et les provisions d'eau doivent être parcimonieuses. Malgré ses difficultés, elle prend quand même le temps d'écouter cet homme avec son cœur généreux, prêt à donner et disponible. Ça, je trouve ça tellement beau. Cette attitude me parle parce que le Seigneur attend de nous la même chose. Il attend que nous soyons des hommes et des femmes disponibles au cœur généreux, prêts à écouter sa voix en demandant « Que veux-tu que je fasse ? Parle-moi ! » Je vais être disponible pour écouter, pour obéir à ta voix. Cette femme, elle avait été choisie par Dieu pour nourrir Élie, puisque au verset 8, donc bien plus haut, il est dit « J'ai commandé à une femme de te nourrir ». Bon, géographiquement, Dieu savait ce qu'il faisait, mais ce n'était quand même pas tellement logique son affaire, hein. Élie était complètement à l'opposé de Sarepta, dans le sud-est du territoire, alors que Dieu a choisi cette femme dans le nord-ouest. Mais pourtant, c'était le bon choix. Et Jésus en parlera et dira, « Vous savez, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, c'est cette femme-là que Dieu a choisi pour nourrir Élie. » Pourquoi elle ? Bon, certes, Dieu avait envie de la bénir, pour l'aider à vivre cette situation difficile. Derrière ce qu'il lui demandait, il y avait une promesse de bénédiction. Elle ne le savait pas, mais Dieu le savait. Il savait qu'elle avait un cœur généreux, un cœur qui était disponible. Et Dieu attend cela aussi, de notre part. Il attend des enfants qui ont un cœur généreux, un cœur qui est disponible. Vous savez, souvent je demande à Dieu de me donner un cœur avec cette générosité, cette disponibilité pour entendre sa voix. Et je lui demande souvent, parce que je sais qu'on a vite fait, de restreindre l'espace qu'on lui accorde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle beaucoup de nos difficultés. On est là, la tête immergée dedans, on est submergé par ce qui nous arrive. On a tendance à se recroqueviller sur nos vies, sur nos difficultés familiales, au travail, nos maladies, et ça nous empêche d'entendre la voix de Dieu. On n'est plus disponible pour entendre ce que Dieu a à nous dire pour les autres. Pour les autres. Parfois, on a passé une semaine compliquée, ça c'est un nouveau mot ça. Hein, ça va, or c'est compliqué. Voilà, c'est le nouveau langage du 21e siècle. Donc après avoir passé une semaine compliquée, dans un profond esprit de Calimero, « Oh, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi ?» On arrive à l'église, on salue une personne en lui demandant c'est un automatisme. Comment elle va? Et ce qu'elle nous partage nous fait rougir de honte parce que, en fait, nous voyons que ce que nous avons, nous, traversé, ce n'est rien à côté de ce qu'elle elle a traversé. Ses difficultés, elles sont énormes par rapport aux nôtres. Mais, voilà, comme nous étions recroquevillés sur nos propres difficultés, nous n'avons pas pu entendre la voix de Dieu qui pouvait nous dire ce que Dieu pouvait nous dire concernant cette personne. Nous aurions pu entendre Dieu nous dire « Cette personne, elle traverse des galères pas possibles. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ton intercession. Elle a besoin de ton soutien. » Mais voilà, nos cœurs n'étaient pas disponibles. Et vraiment, ma prière pour chacun de nous, c'est que nous ayons cette générosité de cœur pour entendre ce que Dieu nous demande pour les autres, afin d'être une bénédiction pour eux, et pas rien que dans l'Église, pour nos quartiers, pour notre région, pour notre village, pour notre ville. Et c'est la première leçon que j'aimerais que nous tirions de cette histoire de la veuve de Sarepta. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on apprenne ensemble ? Avoir un cœur généreux, disponible, une oreille toujours à l'écoute. Dans la deuxième partie du verset 11, on voit Élie qui appelle de nouveau cette femme pour lui demander autre chose. Il lui fait part de sa faim et il lui demande un repas. Tiens donc. Et là, elle lui répond, c'est au verset 12, « Par ton Dieu, le Seigneur vivant, je te le jure, je n'ai plus de pain. » Elle n'a plus de pain. Mais, elle dit ceci, « J'ai seulement une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. » Désolé monsieur, pour le pain ce ne sera pas possible. L'eau ne lui coûtait pas grand-chose, sinon l'effort d'aller puiser. Mais donner le pain à Élie, ça allait lui coûter sa vie et celle de son fils. Elle explique cela au prophète. Je n'ai qu'un tout petit peu de farine et d'huile. Je vais faire une galette que nous mangerons et puis voilà, nous attendrons la mort. Donner le pain à Élie, ce serait signer son arrêt de mort. Cette femme était généreuse, mais parfois... la souffrance, les difficultés limitent la générosité. Vous savez, quand on grandit avec Dieu, il commence par nous demander des choses qui ne nous coûtent pas ou peu. On donne facilement. On demande d'abandonner ça, sans dire « Oui, Seigneur, oui, on est dans le feu du premier amour. » Puis, quand Dieu veut nous faire grandir encore plus dans sa présence, dans sa connaissance, dans son intimité, il va nous demander des choses qui vont nous coûter. Et là, on a du mal à lâcher les choses qui vont nous coûter. C'est vrai pour vous aussi? Oui, merci, ça me rassure. Quand je me suis engagée pour le Seigneur, on m'a dit, tu sais, hein, c'est pas une vie facile, hein, c'est dur, il faudra payer le prix, tu vas en baver. Un dimanche après-midi, alors qu'on avait traversé un épisode un peu épique au niveau de l'église de Fontenay, je pensais à haute voix, et je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on sera bien au ciel. Et il y a une brave dame qui était à côté de moi, et qui m'a dit, ah, ma pauvre, c'est pas pour tout de suite, tu n'as pas assez souffert. C'est ce langage-là, ça vous donne envie de quoi? De prendre la porte et de vous éloigner le plus loin possible de l'église. On a l'impression que ce ne sera que du combat, des obstacles à surmonter. C'est vrai, en partie, on aura des obstacles à surmonter. Mais ce qui me gêne dans ce discours-là, c'est qu'il n'est pas complet. Il manque la deuxième partie. Si Dieu me demande d'abandonner ma maison, mes enfants, mon mari, ma famille, t'inquiète pas chérie, il ne me l'a pas demandé, hein, je vais avoir du mal à avaler la pilule. Parce que j'aime ma maison, j'aime mes enfants, j'aime mon mari, j'aime ma famille. Parfois on a envie de demander au Seigneur, mais pourquoi toutes ces pressions? Est-ce que tu veux nous tester Seigneur? Est-ce que tu veux savoir si nous t'aimons? Est-ce que nous allons rater le test? Alana nous a parlé il y a quelques semaines, enfin plusieurs semaines, du test qu'Abraham a passé. Et lui, il l'a réussi. Pourquoi est-ce qu'il a réussi le test? Parce que Dieu avait la première place dans sa vie. Et avec nous, Dieu ne veut pas autre chose, juste la première place dans nos vies. Il ne veut pas nous torturer, il veut juste passer en premier. Lorsqu'il aura la première place dans nos vies seront épanouies. C'est pour cela qu'il nous demande de renoncer à certaines choses, pas pour nous punir, pas pour nous plonger dans la peine. Vous savez, j'ai grandi dans un milieu d'église où on disait, plus on est pauvre, plus on a l'air triste, plus on est saint. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je me rends compte que franchement, on n'avait rien compris. Enfin, moi, j'ai suivi ce qu'on m'a enseigné. Mais un peu plus haut, ils avaient raté un épisode. Dieu nous parle de ces choses auxquelles nous sommes attachés, nos maisons, nos familles, notre travail, et il nous dit, ce que tu as, c'est bon pour toi, parce que c'est moi qui te le donne. Mais je suis la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et c'est pour cela que je veux la première place dans ta vie. Pour que ta vie atteigne un niveau d'excellence que j'ai prévu pour toi. Avant la chute, Adam et Ève vivaient cette excellence dans la relation avec Dieu, dans son intimité. Dieu avait la première place dans leur vie. Il était tout pour eux. Et le doute est arrivé. Est-ce que Dieu a vraiment dit vous êtes sûr, gna 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 gna? Et c'est la fin de l'excellence de leur relation. Ils ont laissé la première place à autre chose. Quand Dieu nous demande d'abandonner des choses, c'est par amour qu'il nous le demande. Il se soucie de notre bien-être. Alors la version « tu vas en baver », elle est incomplète. Il faut préciser, tu vas perdre parce que tu vas gagner. Si on ne mentionne que le sacrifice, en fait, aucune personne normale n'a envie de perdre, de perdre, de perdre, de perdre et de perdre. Enfin, j'en connais pas. Mais la promesse de la plénitude dans l'excellence me donne une toute autre nouvelle perspective. Je suis prête à perdre pour gagner en qualité. Et Nelson Mandela, cet homme que je trouve qui est admirable, disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Ayons cette mentalité. Et quand on se trouve face à une invitation divine à renoncer à quelque chose, on sait ce qui va remplacer est bien meilleur, car Dieu va prendre cette place qu'il nous demande de vider. Ce qui pousse Dieu à nous dire « Mets-moi la première place dans ta vie », c'est son amour. C'est juste parce qu'il nous aime. C'est pour cela, parce qu'on sait que c'est son amour, que nous pouvons dire « Oui Seigneur, je le veux ». Et ce sera la deuxième leçon de la veuve de Sarepta. Avec Dieu, quand tu crois que tu vas perdre, quand les autres te disent que tu vas perdre, en réalité, tu gagnes. Dans le livre des Hébreux, chapitre 12, la deuxième partie du verset 2, il est parlé de Jésus et il est dit, il, donc Jésus, a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de souffrir la croix et tout ce qu'il y avait avec? C'est de savoir la joie qui lui était réservée. Il savait ce qu'il allait gagner en perdant. Il appelait au bout de son sacrifice, car il savait ce qu'il y avait derrière tout cela. Ça a commencé quand il a accepté d'être envoyé sur la terre, de quitter sa gloire pour aller jusqu'à la croix. Mais il l'a fait parce qu'il savait. Il est bon pour nous de savoir que Dieu veut nous donner toujours le meilleur. Le sacrifice de ma vie n'est possible que si je prends conscience de ce que je vais gagner quand je vais perdre. Alors revenons à notre histoire. Le verset 12 nous dit « Je n'ai qu'un tout petit peu de farine et d'huile. Je suis venu ramasser deux morceaux de bois. Je vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et moi. Nous mangerons et ensuite nous mourrons. » La veuve n'est pas encore dans cet état d'esprit de perdre pour gagner parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle peut gagner en donnant, en se sacrifiant. Elle est résignée et elle a fait son planning auquel elle s'attache, cuire, manger, mourir. Elle est écrasée par sa situation. Elle est dominée dans sa façon de penser. Tout dans son discours est dans le petit. Une poignée de farine, un peu d'huile, deux morceaux de bois. Elle n'a pas ramassé un fagot entier. Non, elle en a ramassé deux. Elle minimise tout ce qu'elle a. Tout est petit. Un professeur de français dirait que c'est le champ lexical du misérabilisme. Dommage qu'elle ne soit pas là, elle nous aurait confirmé. Cet état d'esprit amène à une sorte de fatalité. On va manger, puis voilà, on va attendre la mort, tranquillou. Et c'est là qu'on a la base de notre troisième leçon. On minimise ce que l'on a, et pourtant on a des richesses en nous. Mais on minimise. Ah, je ne sais pas faire ça. Ah, je n'ai que ça, je n'y arrive pas. J'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas. Ah non, ce n'est pas pour moi. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Nous ne voyons pas comme des richesses les choses que nous avons. Mais on les voit toutes petites. Parfois même, on ne voit pas la qualité de ce que nous avons. On cherche la quantité. Vous avez remarqué que souvent, on cherche la possession, on a une grande maison, on a une grosse voiture, on cherche la quantité. Mais même si ce que tu as est petit, la foi comme un grain de sénévé peut déplacer des montagnes, même si c'est petit, tu as quelque chose. Souvent, on pense qu'avoir, c'est avoir beaucoup. Alors si on te présente deux cadeaux, un gros cadeau bien emballé, et un tout petit ficelé dans un simple papier, peut-être un papier journal, je ne sais pas. Que vas-tu choisir? Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Dites-moi.
Les deux.
Ben, évidemment. Ah, les deux. Non, il faut choisir l'une. Oui, en fait, en général, on a tendance à aller vers ce qui est gros. On se dit, ah, qu'est-ce qu'il doit y avoir là-dedans? Ça doit être beau, ça doit être chouette. Hein? Le gros, eh bien voilà, on va ouvrir les paquets. Et le gros, il est rempli d'un kilo de ferraille. Et le petit, il contient une pépite d'un gramme d'or. Alors, j'ai regardé, je ne suis pas à la bourse, hein, mais voilà, pour l'occasion, j'ai regardé le cours du fer. Le fer vaut 11 centimes le kilo. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit qu'il y avait? Un kilo de ferraille. Donc, ça fait 11 000 centimes, soit 110 euros. Et l'or est coté 61 euros le gramme. Donc, ça fait... ça nous fait 61 euros. Ah oui, une pépite, ça fait 61 euros. Mais quand on fait le calcul, on a vite fait de choisir à quantité égale. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On a en nous des richesses que Dieu nous a données. Il faut qu'on arrête de les minimiser. Ce qui est en toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Et vous savez, en me disant ça, je me parle aussi à moi. Hein, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à digérer. Donc la troisième leçon à retenir, ne minimisons pas ce que Dieu a placé en nous. Ce sont des richesses que Dieu a déposées. Alors arrête d'être dans le misérabilisme et reconnais ce que Dieu a déposé en toi. Prends-en soin. Vous savez, dans la parabole des talents, on voit que le maître, il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des plus grandes. Prends soin de ce que Dieu t'a donné. Et Dieu t'en confiera des plus grandes.
Merci Seigneur.
Tu veux un grand ministère? Je vous assure, franchement, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais bon. Commence par le plus petit. Commence juste par ce que Dieu te demande de faire. N'essaie pas d'aller trop vite. Prends soin du tout petit que tu as. Et au fur et à mesure, ça va grandir. Alors, toujours dans le verset 12 de notre histoire, notre veuve dit... Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée. Je n'ai rien, mais j'ai quand même un peu. Moi, je l'aime, cette femme. Elle aurait pu dire à Élie, je n'ai pas de pain, et s'arrêter là. Pourquoi est-ce qu'elle lui a parlé du petit peu de farine et du petit peu d'huile? Elle lui aurait dit, je n'ai rien de cuit, point barre. Et puis, tu vas chercher ailleurs. Mais vous savez quoi? Si elle était restée dans cette situation-là, si elle avait dit « je n'ai rien », toujours dans le négatif, elle serait passée à côté d'une grande bénédiction. Et cette femme, malgré le fait qu'elle ait cette mentalité, qu'elle dise des choses négatives, et souvent ça nous arrive aussi, elle me donne l'impression qu'au fond d'elle-même, il y a quelque chose qui la pousse à espérer, qui la pousse à croire. Et elle dit « voici ce que j'ai, c'est trois fois rien ». Mais j'ai quand même quelque chose. Et je trouve que même s'il y a de la limitation dans ce qu'elle dit, j'ai un peu de ceci, un peu de cela, dans sa désespérance, il y a quand même une petite tonalité d'espoir. Toi aussi, tu n'as peut-être pas de pain, mais tu as des ingrédients pour en préparer, pour faire quelque chose. Peut-être que tu n'as qu'un tout petit peu de farine, un tout petit peu d'huile, mais tu as de la farine et tu as de l'huile. Il en reste un peu quand même. Et c'est avec ce peu qui te reste que tu peux commencer à faire quelque chose, même si c'est peu. Peut-être que tu vis des choses qui sont difficiles la maladie, les problèmes dans la famille, au travail. Peut-être que tu as l'impression que ta vie n'est qu'une suite d'échecs qui se succèdent. Mais je suis sûre que même dans cette situation-là, tu cries à Dieu. Pourquoi tu cries à Dieu ? Si tu cries à Dieu, c'est parce que tu attends de lui une solution. Donc c'est parce que tu as encore de l'espoir, que tu as encore de la foi. Pour celui qui a de la foi comme un grain de sénevé, Dieu va faire pleuvoir sur ce grain. Il va faire lever quelque chose. Alors reprenons espoir, mes amis. Reprenons espoir. Tenons bon. C'est difficile. Tu attends depuis longtemps, mais continue à espérer, ne perds pas espoir. Ton Dieu est vivant, le mien aussi d'ailleurs. Notre Dieu est vivant. Et malgré les difficultés qui t'assaillent, Dieu est attentif. Il entend tes pleurs, il entend tes cris et il te dit, il y a encore de l'espoir parce que je suis toujours là pour toi. Alors ce soir, je veux t'encourager à ne pas abandonner face aux difficultés, mais à saisir cette opportunité où Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ton placard? Tu as encore un peu de farine? Est-ce que tu peux me la donner? Est-ce que tu as encore un peu d'huile, quelques gouttes? Est-ce que tu peux me les donner? Je vais mettre ma main dessus et ma bénédiction va venir. Soyons de ceux qui persévérons malgré nos difficultés. N'abandonnons pas, tenons ferme, tenons jusqu'au bout. Rien ne va comme tu le voudrais, la société marche sur la tête. Dieu te dit, que t'importe, toi, suis-moi. Mes amis, tenons bon. Au verset 13 de notre histoire, Élie répond à la femme, « N'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce qui te reste, prépare-moi d'abord une petite galette et tu me la porteras. Ensuite, tu en prépareras une autre pour ton fils et pour toi. » Élie l'invite à mettre en œuvre son projet, il la rassure. Et Dieu te dit qu'il comprend ton analyse de ta situation. Il a entendu ce que tu as dit. Et tu t'es tourné vers lui. Cela veut dire que tu attends de lui une solution et tu crois qu'il est vraiment ta solution. Autrement, tu ne serais pas venu ce soir ici. Et donc cette veuve, que je continue à trouver formidable, dit, je vais faire une galette, nous allons la manger, et puis après nous mourrons. Là j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, parce que c'était quoi le but? Est-ce qu'elle voulait mourir le ventre vide? Est-ce que, je ne sais pas trop, le ventre plein, pardon. En même temps, elle n'est pas sûre que cette galette va les rassasier. Elle va tenir peut-être une journée de plus, mais après, elle pourrait se dire, bon voilà, si c'est... Je ne vais pas aller loin avec ça, et à quoi bon? Elle aurait dû abandonner directement et se dire, eh ben voilà, je vais me laisser mourir, et puis on n'en parle plus. Mais non, elle décide de faire quand même, de prendre le temps d'aller chercher le bois, d'allumer le feu, de pétrir, de faire pousser la pâte, de mettre à cuire. Cette femme a la foi, malgré sa résignation apparente. Elle ne lâche pas. Il y a en elle cette braise qui est là, et Dieu va souffler sur cette braise. C'est comme ce lumignon qui fume, dont nous parle la parole de Dieu. Dieu ne l'éteint pas, mais il le ranime, il le ravive. Et c'est la même chose pour toi, pour moi. Il y a encore cette braise dans ta vie, un reste incandescent, même si tu crois que le feu est éteint. Mais Dieu va souffler dessus, c'est sûr, si tu le lui demandes. Si tu as encore un peu de farine, un peu d'huile, c'est avec cela que Dieu va faire un miracle. N'abandonne pas, c'est dur, mais tiens bon. Alors j'imagine la réaction de la dame qui a déjà tout expliqué à Élie. Cet homme lui demande de faire pour lui, de le servir, de le nourrir. Et elle va rester là, à le regarder manger en se demandant ce qui lui restera pour son fils. Mais Élie l'invite à le servir et ensuite à repartir vers sa maison et à recommencer à cuisiner pour son fils et pour elle. Même si elle se demande avec quoi elle va le faire, Élie l'invite. Et cette femme aurait pu reprendre Élie et lui dire, oh, tu n'as pas compris, tu n'as rien compris à ce que je t'ai dit. Il ne me reste quasiment rien. Mais elle ne l'a pas fait. La foi même inconsciente de cette femme est là. Elle voulait voir jusqu'où ça allait la mener, toute cette histoire. Et elle a raison de ne pas arrêter Élie dans sa requête et d'attendre pour voir ce qu'il allait dire. Elle aurait pu lui dire « Ton plan ne m'intéresse pas, tu essayes de m'arnaquer. Mais moi, je suis une faible femme et toi, tu es un homme. Tu... » Voilà, mais ça n'est pas bien ça. Mais elle ne l'a pas fait. Parfois, on présente nos plans devant Dieu. Ou on fonce même sans les lui présenter d'ailleurs. Et Dieu nous dit, tu sais, j'ai un autre plan pour toi, pour ta vie. Nous faisons parfois le choix de dire, ah non Seigneur, ton plan ne m'intéresse pas, le mien est plus sûr. Je vois plus loin avec mon plan à moi, avec le tien. Et nous finissons par le regretter. Et si cela s'est passé dans ta vie, mais que tu es encore là ce soir, Dieu te représente à nouveau son plan. Il est encore temps pour toi de lui dire oui. Son plan est toujours là, il ne change pas. Dis-lui, voilà, Seigneur, ton plan est invraisemblable, il me fait trembler. Mais comme il vient de toi, alors je veux bien l'accepter pour ma vie. Parce que je sais que je suis toujours gagnant avec toi. Et si j'ai l'impression de perdre, bien, je gagne quand même. La veuve a laissé Élie finir son discours et elle a eu bien raison. Parce qu'il va lui parler de la part du Seigneur. Et il va lui dire ceci au verset 14. « La farine qui est dans le pot ne va pas manquer et l'huile qui est dans la cruche ne va pas diminuer. » Et là, elle commence à comprendre que si elle utilise ce qu'elle a pour faire pour Élie, il en restera pour elle et son fils. Et de quelle huile, de quelle farine, de quelle cruche et de quel pot parle-t-on ici? Mais de cette même huile, de cette même farine, du même pot, de la même cruche qu'au début de l'histoire. Il n'y a quasiment rien dedans. Et quand tu dis que tu possèdes peu, ben, il faut que tu comprennes que c'est à partir de ce peu-là que Dieu va faire son miracle. C'est pas formidable? Il faut arriver à le croire, hein, mais quand on est rentré dedans, c'est formidable. C'est à partir de ce qu'il y a dans ta cruche, ce qu'il y a dans ton pot que Dieu va multiplier. Es-tu prêt à avoir le miracle de Dieu avec le peu que tu as donné? Cette femme n'a pas eu à aller chercher chez les voisines des pots, des cruches, des vases comme la veuve qui a croisé le chemin d'Élysée. Non, Dieu a utilisé ce qu'elle avait là. S'il ne te reste qu'un chouïa d'espérance, Dieu te dit, l'espérance ne manquera pas. Manque-t-il la paix dans ta maison? Déclare que la paix ne manquera pas, que la joie ne diminuera pas, que la réussite ne manquera pas. Mais ce que tu veux pour proclamer que cela ne te manquera pas. Pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison, pour mon quartier, pour ma ville, pour mon église, la grâce continuera à couler et elle ne diminuera pas. La bénédiction de l'Éternel s'attache aux enfants de Dieu qui lui font confiance. Il n'est pas dit que la farine et l'huile allaient déborder. Il est dit que ça ne manquerait pas. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Ni trop, ni trop peu. Juste ce dont tu as besoin. Cette dame n'a pas eu besoin d'emprunter une cruche. Non, sa petite cruche a suffi. Dieu l'a remplie. Et c'est dans ta cruche à toi, dans ton pot, dans ton bol, que Dieu veut mettre quelque chose. Parce qu'il va utiliser ce que tu as déjà. Pas ce que ton voisin ou ta voisine a. C'est avec ce que tu as que Dieu va faire son miracle. Qu'as-tu que Dieu peut utiliser? Que veux-tu mettre à sa disposition? C'est l'obéissance de cette femme qui va déclencher le miracle de Dieu. Elle croit ce qu'elle y dit au nom de l'Éternel. Sa foi et son obéissance. Elle entend, elle croit, elle obéit. C'est parce qu'elle a cru et qu'elle a obéi. La Bible nous parle de tous ces héros de la foi au chapitre 11 des Hébreux. Ils ont posé des actes, pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Ces actes étaient fondés sur leur foi. Ils obéissent parce qu'ils ont la foi. Alors continue à t'appuyer sur la parole de Dieu. Continue à déclarer sur ta vie ce que dit la parole de Dieu. Et agis en fonction de cela, la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. Au verset 15 et 16, il nous est dit, la femme va faire ce qu'Élie lui a demandé, l'obéissance. Et ils ont mangé pendant longtemps, elle, son fils et Élie. Et ils ont mangé pendant longtemps, elle, son fils et Élie. Dans le bol, la farine ne manque pas. Dans le pot, l'huile ne diminue pas. comme le Seigneur l'a dit dans la bouche d'Élie. On voit le miracle de Dieu qui se déclenche par l'obéissance fondée sur la foi de quelqu'un. Tu as la foi ? Obéis. Le miracle de Dieu va se déclencher pour ta vie. Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir parfaitement. Une chose intéressante aussi, j'ai trouvé, c'est que Dieu n'a pas dit qu'il ne manquerait pas de pain. Il a dit de la farine et l'huile, pas le pain. En fait, il n'a pas fait de cette dame une rentière. Le pain allait tomber tous les jours. Non, non. Ça veut dire quoi ? Que Dieu a fait sa part. Il a donné la farine, il a donné l'huile, mais la femme a fait le reste. Elle devait sortir tous les jours pour amasser le bois, elle devait pétrir, elle devait faire cuire. Alors Dieu fait sa part, mais toi aussi tu as ta part à faire. Dieu fait ma part, mais j'ai aussi ma part à faire. Et je voudrais terminer par deux choses que je remarque chez cette femme. Alors ce n'est pas dans toutes les versions, mais j'ai regardé, vous savez, j'ai comparé, et quelque chose m'a frappée. Après le verset 16, on ne parle plus d'elle de la même façon. Au début, on parlait d'une veuve sans ressources ni protection. Plus tard, dans certaines versions, on parle de la femme maîtresse de maison, notamment dans la version Darby, la version Crampon, je ne sais plus, mais bon, vous chercherez dans votre comparateur et vous verrez. Son statut a complètement changé parce qu'elle a cru que Dieu pouvait faire un miracle. Elle s'est appuyée sur la parole de Dieu. Et sa vie a été complètement transformée. Elle est passée de femme veuve à femme maîtresse de maison. Ce n'est pas la même chose. Quand on est le statut de femme veuve induit que voilà, on a des besoins, il faut que quelqu'un s'occupe de nous. Surtout à cette époque-là, les veuves ne travaillaient pas, elles étaient à la charge de l'Église. Une maîtresse de maison parle de diriger, organiser, de pouvoir aux besoins des autres. Au contraire. Donc cette femme, elle a quitté la dépendance. Parce qu'elle s'est appuyée sur Dieu. Est-ce que tu te sens dépendant, même spirituellement? Tu as toujours besoin que quelqu'un te remorque? Tu peux quitter ta dépendance et devenir un cheval de trait pour quelqu'un d'autre. Et alors, est-ce que tout a été rose dans la vie de cette maîtresse de maison à partir de cette rencontre avec Élie? Non. Si vous lisez la fin du chapitre 17... du premier livre des rois, vous verrez que la vie de cette femme n'a pas été un long fleuve tranquille. Son fils tombe malade et meurt. Il n'est pas mort de faim, mais il est mort quand même. Élie pose la question au Seigneur, cette question qui nous viendrait à tous à l'esprit. Mais Seigneur, mon Dieu, mais cette veuve chez qui je loge, est-ce que tu veux vraiment lui faire du mal en faisant mourir son fils? Bien sûr que non, Dieu ne voulait pas cela. Et Élie, avec son cœur disponible, se tient devant Dieu pour cette maman et son enfant. Au verset 24, Dieu va ressusciter son fils et elle dira « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Sa foi s'est affermie à travers ce qu'elle a vécu. Elle ne croit pas parce que Élie a dit, mais elle croit parce que l'Éternel a parlé et qu'il a agi. Et nous sommes appelés à grandir dans notre foi. Pour dire « Seigneur, je crois en toi. » Je crois ce que tu dis. Je crois en ta parole et je veux m'appuyer sur ce que tu dis pour aller de l'avant. Je veux être une personne forte face aux difficultés. Je sais que tu es là avec moi. Ces choses sont difficiles, mais je sais que je peux tenir parce que ta main est avec moi. Ta main me soutient. Tout à l'heure, on a chanté un chant qui se termine ainsi. Et si tout s'effondre autour de moi, Dieu ne me lâche pas. Si tout s'effondre autour de toi. Dieu ne te lâche pas. Et voilà, je voudrais qu'on puisse revoir les trois points pour les travailler dans notre vie. Donc, pour résumer, les leçons qu'on apprend avec cette veuve de Sarepta et son histoire, ayons un cœur disponible pour écouter Dieu. Ne gardons pas nos yeux focalisés sur nos difficultés. Soyons prêts à perdre, parce que Dieu nous donnera quelque chose d'encore meilleur. Et offrons à Dieu tout ce qui est tout petit. Parce qu'avec ce qui est tout petit, Dieu peut faire de grandes choses. Marchons dans l'obéissance fondée sur la foi dans la parole de Dieu. Et si tout s'effondre autour de moi, Dieu ne me lâche pas. Soyez bénis.